Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi se faire baptiser? Quel est le but du baptême? Beaucoup de chrétiens se vont baptiser en tant qu'enfants. Est-ce vraiment biblique? D'autres ne se font pas du tout baptiser. Oh, quelle différence cela fait-il, diront-ils? Mais qu'est-ce que vraiment le baptême? Quelle est la nécessité? Peut-on vraiment être chrétien sans avoir été baptisé? Ce sont des questions importantes car il faut prendre la Bible, l'étudier et comprendre ce que Dieu dit à ce sujet. Tout d'abord, pourquoi sommes-nous nés? Si le baptême joue une partie dans notre naissance physique ou spirituelle, quelle est cette partie importante du baptême? Mais en fait, que signifie baptême? Le mot dérive du grec qui signifie « immersion totale ». Donc, ce n'est pas une question de quelques gouttes d'eau qu'on asperge sur la tête de quelqu'un. Et ensuite, la Bible a des précisions directes en ce qui concerne comment se faire baptiser, quand se faire baptiser et pourquoi se faire baptiser. Mais tout d'abord, revenons à ma question principale. Peut-on être vraiment chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit? Et peut-on recevoir le Saint-Esprit sans se faire baptiser? Quelle est la part que le baptême joue dans tout cela? Mais direz-vous, ce sont des choses physiques dont vous parlez. C'est quoi le baptême? C'est un acte physique. Voilà le problème. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens regardent les enseignements bibliques d'une façon indirecte. Autrement dit, ils spiritualisent les choses. Pour eux, la religion chrétienne, ce n'est que dans l'esprit. Tout ce qui est physique, pour eux, n'a pas d'importance. Et pourtant, le Christ a précisé très clairement que la partie physique de la loi est tout aussi importante que la partie spirituelle. En fait, on ne peut pas les séparer. Vous ne pouvez pas séparer la signification physique du baptême de la signification spirituelle du baptême. Comprenez-vous cela? Voilà pourquoi j'ai commencé ce sermon en vous posant la question, peut-on être chrétien sans se faire baptiser? Quelle est la part que le baptême joue dans tout cela? Eh bien, voyez ce qui se passe de par le monde aujourd'hui. Vous avez environ 1 milliard de chrétiens, un peu plus, et vous avez des centaines de religions, même plus, même au sein du christianisme. Il y en a qui se font baptiser par aspersion, d'autres par immersion. Il y en a qui ne se font pas du tout baptiser. Il y en a qui s'en fichent de tout. Mais alors, qu'en dit la Bible? Peut-on vraiment, je répète cette question, je la répéterai, peut-on vraiment être chrétien, être converti, sans se faire baptiser? Est-ce que le baptême a une partie essentielle dans notre conversion? Eh bien, la réponse à cette question est affirmative. Nous devons nous faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être chrétiens. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais être convertis. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous qui savons ces choses, nous devons approfondir notre connaissance. Nous devons comprendre les raisons pour lesquelles nous nous faisons baptiser. À travers mon ministère, j'ai parlé à des je ne sais pas combien de personnes, à la radio à des millions de personnes. J'ai rencontré des milliers de gens dans mon ministère. Il y a des gens qui, après avoir écouté ce que je dis maintenant, ils disent « Écoutez, mais quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il? Mais écoutez, ça fait toute la différence. Autrement dit, si vous n'avez pas Dieu, comment pouvez-vous voir? Si vous n'avez pas des oreilles, comment pouvez-vous entendre? De même, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, comment peut-il y avoir un lien entre Dieu et vous? Je vous ai toujours dit, et je répète, nous ne sommes pas nés en tant qu'êtres immortels. Non. Nous sommes nés en tant qu'êtres mortels. Lorsque nous mourrons, c'est fini. La seule façon d'avoir accès à l'immortalité, c'est de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, car Dieu est immortel. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit de Dieu en nous nous confère les arts de l'immortalité. Ça, c'est la base. Une fois que vous comprenez cela, vous comprendrez l'importance du baptême. Je disais, il y a des millions de gens, des chrétiens, qui ne comprennent pas ces choses. Ils prétendent avoir reçu le Saint-Esprit sans se faire baptiser. Ou ils pensent, ils croient, ils espèrent avoir reçu le Saint-Esprit alors qu'ils se sont fait baptiser en tant qu'enfants. Mais n'y a-t-il pas des conditions pour le baptême? C'est là où je veux justement commencer. Dans Actes chapitre 2, ce n'est là qu'un exemple. Lorsque les apôtres du Christ, après la mort et la résurrection du Christ, ont commencé à proclamer l'Évangile et à parler justement du Christ, du plan divin, et lorsque les apôtres ont montré aux gens leurs péchés, certains d'entre ceux qui entendaient ces choses ont été touchés. Alors, ils ont posé une question importante. Autrement dit, voyez-vous, lorsque vous proclamez la vérité, lorsque vous proclamez l'Évangile, certaines personnes vous écoutent, d'autres pas du tout. Certaines personnes prêtent l'oreille, d'autres pas du tout. Certaines personnes voudraient savoir davantage, d'autres rien du tout. Alors ici, dans Actes chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre a parlé justement du Christ et comment nous autres humains, avons crucifié le Christ, certains ont eu le cœur touché. Notez-le. Dans Actes chapitre 2, après avoir entendu donc ce discours de l'apôtre Pierre, certains ont eu le cœur vivement touché. Ça, j'aime, vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Voilà. Vous savez, j'aime cette question. Vous voulez savoir ce que vous devez faire pour arriver au but. Vous posez une question, vous voulez comprendre la réponse. D'une façon générale, les gens posent des questions, mais n'attendent pas la réponse. Comme Pilate, il a demandé au Christ qu'est-ce que la vérité, ensuite il lui a tourné le dos, il est parti. Si vous cherchez la vérité, attendez la réponse. Non pas une réponse quelconque, mais la réponse biblique. Ici, nous parlons de baptême. Nous disons, qu'est-ce que le baptême? Eh bien, cherchons dans la Bible ce qu'est le baptême. Ici, nous parlons de baptême et nous disons, il faut se faire baptiser. La question, pourquoi se faire baptiser? Donc, ce sont ces questions-là. Les réponses, vous les trouverez dans ce petit passage. Lorsque les apôtres ont prêché, l'apôtre Pierre surtout, certaines personnes avaient le cœur touché. Ils ont demandé, que ferons-nous? L'apôtre Pierre répond, Actes chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous ». Voilà une condition. Autrement dit, si vous ne vous repentez pas, vous n'avez pas fait votre part en ce qui concerne le baptême. Mes frères et mes sœurs, ça c'est important. Il faut se repentir sincèrement, sérieusement pour comprendre ce que c'est que le baptême. Ensuite, il faut se repentir sincèrement et sérieusement avant de recevoir le Saint-Esprit. Et puis, Pierre continue, que chacun de vous soit baptisé, d'abord repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, voilà un simple verset qui vous donne d'abord les conditions nécessaires au salut ou bien au baptême, ou bien pour recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, comment progresser, voyez-vous? Mais laissez-moi d'abord expliquer ce que c'est que le repentir. Un petit enfant de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, peut-il se repentir? Mais qu'est-ce que c'est que le repentir en ce qui concerne le petit enfant? En fait, je dirais, qu'est-ce que c'est que le repentir en ce qui concerne beaucoup d'adultes? Beaucoup d'adultes ne savent pas ce que c'est que le repentir. Certes, ils vont à l'église, ils confessent leurs péchés, ensuite le lendemain, ils recommencent. Ça, ce n'est pas le repentir. Le repentir n'est pas par les lèvres seulement. Le repentir doit venir du cœur. Le repentir signifie j'ai commis un péché, je m'en repens. Autrement dit, je cesse de le répéter. Autrement dit, je ne vais plus pécher. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la transgression des lois. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je tâche de simplifier les choses. Chaque fois que vous transgressez une loi quelconque, vous commettez une transgression, évidemment, et bibliquement parlant, vous commettez un péché. Chaque fois que vous transgressez une loi divine, vous commettez un péché. Vous devez vous en repentir afin que Dieu vous pardonne, mais vous en repentir signifie ne plus volontairement répéter ce péché. Commencez-vous à comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de gens se font baptiser même après s'être repentis et n'ont pas vraiment l'Esprit de Dieu parce que leur repentir n'est pas sincère. Si vous répétez une faute alors que vous savez qu'il ne faut pas, vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est que le repentir. Mais pour répondre à la première question, un enfant ne sait pas ce que c'est que le repentir. Donc, le baptême n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Vous direz, mais qu'entendez-vous par adulte? Ce que j'entends par adulte, c'est simple. Un adulte est quelqu'un qui comprend les raisons de ses actes, pourquoi il fait les choses et comment les arrêter. Autrement dit, si vous voulez vraiment vous faire baptiser, vous devez savoir ce que c'est que le péché, être conscient que vous avez péché et vous en repentir avec l'intention ferme de ne plus répéter. Dès ce moment-là, vous avez rempli la première condition du baptême. Je dis la première condition, car le Christ a dit, prenons Marc, je reviendrai à Acte 2, prenez Marc chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1. Là, le Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a commencé à prêcher l'évangile. Et notez comment il a prêché l'évangile. Marc 1, verset 14. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus entre dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ici, le Christ donne précisément les deux conditions indispensables pour recevoir le Saint-Esprit. Se repentir, que nous venons de voir, ensuite, croire à l'évangile. Voilà les deux conditions essentielles pour recevoir le Saint-Esprit. Un enfant ne sait pas ce que c'est que le repentir. Un enfant ne sait pas ce que c'est que le royaume de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que le royaume, ni ce que c'est que le repentir. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est simple. La Bible est toujours simple. Si on la laisse s'interpréter. Donc, même un enfant comprendrait ce verset. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous devons nous repentir de nos péchés, ensuite croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La paix mondiale? Peut-être. La bonne nouvelle quoi? D'une vie meilleure? Peut-être. Mais la signification principale de la bonne nouvelle, ici dans la Bible, c'est l'Évangile. L'Évangile signifie la bonne nouvelle. L'Évangile signifie la bonne nouvelle du retour du Christ. Ah! Maintenant, nous avons la compréhension simple. Écoutez, mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Alors que je vous parle, regardez les guerres que nous avons autour de nous, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran, au Liban. Mais on ne fait qu'entendre de guerre et de bruit de guerre. On ne fait qu'entendre massacre, crime, tyrannie. Alors, tout ça, ça doit disparaître. Et la seule façon que tout cela disparaisse, c'est que le Christ arrive. Aucun homme ne peut absolument pas arrêter cette folie humaine sur cette terre. car nous sommes vraiment en pleine folie sur cette terre. Regardez. Regardez les mœurs. Regardez la vie de famille. Regardez les enfants. Regardez les religions. Rien n'est vraiment comme il faut en ce bas monde. Parce que l'homme a, je dirais, transgressé les lois divines, et l'homme a perverti la vérité, corrompu ce qui est juste. Alors les gens suivent chacun la voie qui leur plaît. La seule façon, je répète, d'arrêter cette folie, c'est que le Christ arrive, qu'il détruise tout ce qui est péché, et qu'il recommence une vie nouvelle sur cette terre. Une vie où le gouvernement de Dieu sera en charge. Une vie où chaque être humain comprendra ce que c'est que les 10 commandements de Dieu, et que chaque être humain fera des efforts pour observer ces commandements. Une vie où les lois seront respectées. Une vie, un monde où les enfants obéiront à leurs parents. Si les enfants n'obéissent pas à leurs parents, comment pouvez-vous avoir une famille heureuse? Si les enfants n'obéissent pas à leurs parents, comment pouvez-vous avoir une société équilibrée? Et si vous n'avez pas de société équilibrée, comment pouvez-vous avoir de la paix mondiale? Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, d'une façon générale, n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et leur comportement est tout à fait folie devant Dieu. Voilà pourquoi cette tuerie, ce massacre, ces guerres, cet adultère, voilà pourquoi cette saleté, cette corruption, voilà pourquoi ces mariages entre des individus du même sexe, et que sais-je encore. Voyez-vous, dans un seul verset, le Christ a dit dans Marc chapitre 1, comment devenir chrétien? Repentez-vous, autrement dit, arrêtez de transgresser les lois de Dieu et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'évangile du Christ, aux enseignements du Christ, aux enseignements de la Bible. Respectez la volonté de Dieu, vous êtes automatiquement sur la voie du christianisme, du vrai christianisme. Donc, en tant qu'adulte, vous vous faites baptiser. Maintenant, revenons à Actes chapitre 2. Verset 37, vous comprenez le tarif ou bien le baptême, enfin le prix du baptême pour ainsi dire. Donc vous vous repentez de vos péchés et vous croyez à la bonne nouvelle, Actes 2 chapitre 37, et comme Paul a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit ça, cette promesse, verset 10, 39 maintenant, Actes chapitre 2, verset 39, car la promesse dit-il est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont au loin. Autrement dit, ce n'est pas une promesse qui a été donnée à ceux qui étaient à l'époque avec Paul et avec Pierre et les autres et qui leur parlaient. Non, cette promesse de se repentir et ensuite donc de recevoir le Saint-Esprit, c'est pour tous qui sont ici, qui sont au loin. Aussi grand comme le nombre d'études que ce soit, et dit par plusieurs autres, dit-il parole, Pierre les a conjurés, les a exhortés, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez, mes frères et mes sœurs, on peut dire exactement la même chose aujourd'hui. Sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez autour de vous. Y a-t-il un endroit, vraiment, où vous voudriez être et vivre en paix, avoir l'esprit tranquille, être confortable de façon à ne pas vous soucier de quoi que ce soit. Le moment viendra, le jour viendra, où nous aurons ce genre de monde. Et ça, ce sera lorsque le Christ viendra sur cette terre. Revenons maintenant à Romains chapitre 6. On parle de baptême, car le baptême est indispensable, je répète, pour être véritablement chrétien. Vous direz, mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous demander de nous faire baptiser? Est-ce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans cet acte physique de se faire baptiser? Eh bien, la raison pour laquelle Dieu veut que nous nous fassions baptiser, parce qu'il y a une leçon qu'il veut que nous apprenions. Souvent, lorsque vous avez un exemple devant vous, par l'exemple, vous pouvez mieux comprendre, mieux apprendre, mieux vous souvenir de quelque chose. Alors ici, Paul explique. D'abord, prenez Romains chapitre 5. Je prends au mieux d'une idée, mais extrêmement important, car lorsque vous comprenez ici, dans Romains chapitre 5, versets 18 à 21, ce que l'apôtre Paul dit, vous comprendrez exactement la raison pour laquelle nous sommes nés, et pourquoi nous sommes nés, et pourquoi Dieu s'attend de la part de nous, ce qu'il attend de nous. Notez-le. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du premier homme, Adam. Beaucoup de gens disent, mais Adam a péché et nous sommes punis à cause d'Adam. Non, nous ne sommes pas punis à cause d'Adam. Adam a ouvert la voie du péché, si vous voulez, sous l'inspiration satanique. Mais nous avons tous péché, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 3. Tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont pécheurs. Donc, ne dites pas c'est la faute à Adam. Adam a commencé, mais bon, disons que c'est par Adam que ça a commencé, comme l'apôtre Paul dit ici. Donc, quand par une seule offense, dit-il, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, verset 18, Romains 5, de même, et ça c'est important, voyez-vous, par un seul acte de justice, maintenant c'est le Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Bon, c'est Adam qui a été coupable, supposons. Mais le Christ a fait de sorte que la part d'Adam s'efface et ce que Adam a pu commettre d'une façon générale, le Christ commet d'une autre façon pour que sa grâce abonde. Grâce, c'est quoi? Grâce, c'est pardon. Donc le Christ, par sa mort, a pardonné les péchés. Ensuite, je répète, verset 19, « Car, dit-il, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, on parle d'Adam maintenant, de même, par l'obéissance d'un seul, du Christ, beaucoup seront rendus justes. » Voilà. Vous, d'une part, c'est Adam, d'autre part, c'est le Christ. C'est très simple. Et de même, dit-il, par l'obéissance donc d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Par la grâce du Christ, par ce sacrifice, nos péchés sont pardonnés quels qu'ils soient, mais nous devons nous en repentir et non pas les répéter. Et pour terminer ce chapitre, il dit, ainsi dit-il, comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par le Christ. Pour la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Voilà encore une autre révélation biblique. Nous ne sommes pas nés, je répète, en tant qu'êtres immortels. Nous sommes des êtres mortels. Nous serons immortels lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit en nous confère les arts de l'immortalité. Après cela, l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 6 ce qu'est le baptême et la raison pour laquelle nous nous faisons baptiser. Voilà la raison pour laquelle quelques gouttes d'eau sur la tête d'un enfant, mettons, ou d'un adulte, ne valent rien, parce que le baptême a une signification spéciale. Notez-le. Que dirons-nous, dit-il, après avoir dit que nous sommes sous la grâce? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, voilà. Voilà le secret. Si vous faites baptiser, vous faites mort au péché. Parce que le baptême, c'est votre immersion totale sous l'eau. Lorsque vous êtes noyé, vous êtes mort. De la même façon, les péchés qui sont enterrés avec vous, bien ensevelis, c'est mort, c'est fini. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ensuite, Paul explique, verset 3, « Ignorez-vous, dit-il, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ? » Là encore, un autre secret. Vous n'êtes pas baptisé dans une église. Vous n'êtes pas baptisé à une société quelconque. Le vrai baptême, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Cette année, il dit ça, ça. Nous sommes baptisés, dit-il, ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Autrement dit, le Christ est mort pour nos péchés, donc nous devons aussi mourir, nous, pour ce que nous appelons péché, avant d'être baptisés. Nous avons, dit-il, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec le Christ par le baptême en sa mort. Tâchez de comprendre. Prenez le temps de réfléchir, de méditer. Afin que, dit-il, comme Christ est ressuscité. Voyez-vous, le Christ a pris sur nous nos péchés. Il est mort. Non pas à cause de lui, de ses péchés, parce que le Christ n'a pas péché. Il a pris tous nos péchés, il est mort pour nos péchés, donc ses péchés doivent aussi mourir, être ensevelis avec lui. Ici, l'apôtre Paul dit, comme le Christ donc est ressuscité, donc est sorti de ses péchés, laissant les péchés de l'humanité ensevelir dans l'eau, si vous voulez. De même, dit-il, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est beau ça. Une fois que vous vous faites baptiser après votre repentir, vous sortez de l'eau du baptême, donc vous commencez une nouveauté de vie. Mais cette nouveauté de vie ne peut pas vraiment commencer à moins de recevoir, le Saint-Esprit. Comme Paul dit dans Actes, vous vous repentez, vous faites baptiser, vous croyez à l'Évangile, et par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, il y a un lien entre vous et Dieu. Dès ce moment-là, il y a une communication directe entre vous et votre Créateur. Dès ce moment-là, vous êtes en voie de devenir immortel. Vous n'êtes pas encore immortel, mais vous avez les arts de l'immortalité en vous. Si vous n'avez pas été baptisé de cette façon, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas les arts de l'immortalité en vous. Ce n'est pas possible. Vous direz, mais monsieur, appartient, mais c'est contraire à ce que j'ai toujours entendu. Je m'excuse, mais prenez votre Bible. À travers la Bible, c'est cette vérité qui se révèle. Pour être vraiment chrétien, pour être vraiment converti, pour être vraiment enfant de Dieu, un jour, nous devons nous repentir de nos péchés, croire à l'Évangile, nous faire baptiser par immersion totale, recevoir le Saint-Esprit de Dieu par l'imposition des mains de la part d'un vrai ministre de Dieu. Dès ce moment-là, nous sommes sur la voie de la conversion. Voilà ce que c'est que le baptême. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, écoutez, nous sommes morts maintenant en ce qui concerne le péché. Nous devons vivre en tant que une nouvelle personne. Il dit, revenons à Romains chapitre 6, il dit, verset 5, j'ai déjà commencé, mais il dit, nous serons nous-mêmes, dit-il, conformes à la résurrection. Notre vieil homme, c'est-à-dire, verset 6, notre vieil homme, l'homme pécheur, doit être crucifié avec le Christ, afin que, dit-il, le corps du péché fût détruit, pour que, dit-il, nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Encore une autre vérité. Lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez pas pécher, vous ne pouvez pas vraiment transgresser les lois. Mais si vous êtes donc, spirituellement parlant, mort au péché, dans ce cas-là, vous cessez de pécher et vous êtes sous la grâce de Dieu et vous avancez progressivement jusqu'au moment de la résurrection des morts où vous serez des êtres immortels. Et l'apôtre Paul ajoute des choses. Je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre, mais prenez chaque verset, Romains 6. Si vous lisez Romains 6 attentivement, vous comprendrez ce que c'est que le péché. Vous comprendrez ce que c'est que le baptême. Vous comprendrez ce que c'est que le repentir. Et vous comprendrez ce que c'est qu'être esclave. D'une façon générale, les hommes n'aiment pas être esclaves, et pour cause. Mais esclaves de quoi ? Pour le moment, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous sommes esclaves de Satan. C'est Satan qui nous domine. C'est ce qui se passe autour de vous. Tandis que lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes esclaves du Christ. Si nous sommes esclaves du Christ, nous sommes protégés du mal. Nous sommes protégés de Satan. Donc, esclave du Christ signifie être libre, libéré du péché, libéré des souffrances. Car, mes frères et mes sœurs, les souffrances résultent de la transgression des lois divines. Voilà où nous en sommes. Et l'apôtre Paul, je pense, explique ça, si je peux trouver l'endroit exact. Ah oui, le verset, toujours chapitre 6, verset 16. Romains, chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas, dit-il, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Voilà, c'est simple. Vous êtes esclave à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On ne peut pas être plus clair. Écoutez, n'importe qui lirait ces versets, les yeux ouverts, le cœur ouvert, on ne peut pas nier ce que le Christ dit ici à travers Paul. Autrement dit, si nous sommes esclaves du Christ, nous sommes protégés par le Christ. Satan et le péché ne peuvent pas avoir autorité sur nous. D'autre part, si nous ne sommes pas esclaves du Christ, mais esclaves de notre nature humaine, alors regardez autour de vous. Voilà le résultat. Voilà pourquoi tant de gens aujourd'hui pleurent, souffrent. Voilà pourquoi des holocaustes. Voilà pourquoi des enfants sont tués, sont massacrés, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, que ce que vous voulez. Autrement dit, c'est la confusion. C'est le péché qui règne. Devenons donc des esclaves du Christ. En devenant esclaves du Christ, nous serons protégés du mal, du danger. Comme je dis, vous n'avez qu'à lire le tout, parce que si vous lisez le chapitre entier, vous comprendrez ceci beaucoup plus facilement. Mais terminons au moins ce chapitre avec le verset 23. Si vous comprenez le verset 23, vous avez compris le but de la vie. Notez-le. Le salaire du péché, nous savons ce que c'est que le salaire. Nous savons ce que c'est que le péché. Le péché, c'est la transgression des lois divines. Bon, le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est exactement ce que la Bible dit à travers toutes ces pages. Depuis Adam jusqu'à la fin, les gens n'ont pas compris, ne comprennent encore pas la plupart, que la mort est le résultat du péché. Si on ne péchait pas, il n'y aurait pas de mort. Mais comme le salaire du péché, c'est la mort, dit-il, le don gratuit de Dieu dont nous venons de parler, le Saint-Esprit, le don gratuit de Dieu, dit-il, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Voilà le choix. Un seul verset en nouveau, Paul explique ce que c'est que la mort, ce que c'est que la vie éternelle. Alors, maintenant que vous savez ceci, vous avez une meilleure idée de ce que c'est que le baptême, voyez-vous, et pourquoi se faire baptiser. Mais le baptême, je répète, n'est pas pour les enfants, car les enfants ne comprennent pas ce que c'est que le repentir. Mais il y a un peu plus que ça. Le baptême, ce n'est pas pour des personnes qui prennent les commandements de Dieu à la légère. Il faut vraiment calculer la dépense. Notez dans Matthieu chapitre 10. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens disent, oh, vous savez, le Christ du Nouveau Testament est doux et compatissant, plein de bonté, plein d'amour, tandis que l'éternel Dieu de l'Ancien Testament est dur, cruel. Écoutez, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Christ du Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, le Christ du Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Les commandements qu'il a donnés à l'époque sont toujours valables aujourd'hui. Ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu du Nouveau Testament, le Christ du Nouveau Testament, le Christ dont parle Matthieu chapitre 10, par exemple, regardez ce qu'il dit. Ici, Le Christ nous donne les conditions du baptême, les conditions d'être chrétien, véritablement chrétien. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter de la paix sur la terre. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire, direz-vous? Le Christ, c'est le Christ de la paix, d'accord, mais voyez-vous, lorsque le Christ arrive avec les commandements de Dieu, avec les enseignements bibliques de l'Ancien Testament, les gens n'acceptent pas, donc, la venue du Christ, la première venue du Christ, n'a pas vraiment apporté la paix sur cette terre. Aujourd'hui encore, dans une famille, vous avez certains qui sont convertis, d'autres pas. Donc, il y a cette division. Voilà pourquoi le Christ a dit, je ne suis pas venu à l'époque apporter la paix. Je mérite-t-il l'épée? Et oui, il y a des familles qui se disputent à cause du Christ, à cause de la religion. Ensuite, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Et c'est vrai. Moi, je peux être converti. Moi, je peux être croyant. Moi, je peux être vraiment chrétien. Je peux avoir reçu le Saint-Esprit. Peut-être mes enfants, ou bien ma femme, ou bien mon père ne feraient pas de même. Voilà pourquoi nous aurons donc en famille des disputes. Je sais, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mais nous sommes tous des êtres charnels. Voilà pourquoi le Christ a dit, n'est-ce pas, il dit, je suis venu donc apporter de la paix, mais non pas la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille, la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a tellement de familles, vous savez, et j'en suis conscient car de par la vocation que j'ai, de visiter les gens, de parler aux gens, d'expliquer la Bible, je vois des familles divisées. Avant-hier encore, j'ai reçu une lettre, vous savez, ça vous déchire le cœur. C'est une femme qui a écrit. Une femme qui dit, Monsieur Appartient, je crois à la Bible. Je vais faire ce que Dieu me dit. Je vais obéir aux enseignements bibliques. Mais mon mari ne veut pas. Mon mari ne me permet pas. Mon mari ne veut pas que j'étudie la Bible, que je prie. Voilà ce que le Christ dit. Il est venu donc mettre la division entre l'homme et la femme, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas vous séparer. Vous ne pouvez pas vous divorcer, ce n'est pas ça. Vous direz, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, la simple solution, c'est de faire toujours ce que Dieu vous dit, ensuite de passer plus le temps à genoux devant Dieu. Passez le temps à genoux devant Dieu et priez Dieu pour qu'il vous donne la compréhension, pour qu'il vous donne la sagesse, comment répondre à votre mari, comment plaire à votre mari sans pour autant transgresser les lois divines. Vous verrez la différence. Je me rappelle un jour, j'avais dit à un homme qui était dans l'église de Dieu, et sa femme détestait l'église de Dieu. Et chaque fois que l'homme allait célébrer le sabbat ou bien les fêtes de l'Éternel, la femme voulait le quitter. Il dit, Monsieur Appartient, je ne sais pas que faire. J'aime ma femme elle-même, mais c'est la bagarre entre nous toujours parce qu'elle ne veut pas que je sois chrétien. Vous savez ce que j'ai dit? Peut-être j'ai dit, lorsque vous allez à la fête, mettons pendant 7 jours, la fête des tabernacles, que la Bible recommande, je dis, envoyez chaque jour à votre épouse une douzaine de roses. Eh oui. En disant, écoute, tu me manques, je t'aime. Il se fait qu'elle ne reçoive pas ces roses de bon cœur, mais au moins faites ça, vous faites votre part. Il m'a dit plus tard, mais c'est un miracle. Ma femme d'abord m'a pris pour un fou, il dit, mais qu'est-ce que tu prends? Ensuite, quand elle a vu ces roses, cette douzaine de roses arriver chaque jour pendant 7 jours, elle dit, mais mon mari vraiment doit avoir une raison pour me garder. Et voyez-vous, c'est un petit geste. Mais de par ce geste, ils se sont fait la paix entre eux. Si vous êtes vraiment chrétien, vous demandez à Dieu la sagesse de savoir comment vous comporter avec votre conjoint qui n'est pas converti. Comment vous comporter avec les enfants qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Demandez à Dieu la sagesse de savoir comment répondre aux questions. Je continue. Matthieu chapitre 6. Ensuite, le Christ a dit, verset 37, regardez bien, écoutez bien, lisez-le. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On peut être chrétien. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, on ne peut pas vraiment être chrétien. Et ensuite, celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Et ça, c'est plus difficile. Vous souffrez, vous avez des problèmes, ça, c'est votre croix. Vous ne pouvez pas prendre la croix, donc, si vous ne pouvez pas vraiment continuer, vous n'êtes pas digne de Christ. Il dit, celui qui conservera sa vie perdra sa vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Luc, vous savez, nous avons dans la Bible les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun de ces évangélistes vous donne une partie des enseignements du Christ. Ces enseignements ne se contredisent pas. L'un ajoute une précision à ce que les autres disent. Ici, Luc prend le même verset, la même instruction du Christ, et explique encore un peu davantage. Notez-le. Luc 14. Ici, les mots grecs sont un peu différents. Lorsque le Christ a dit « celui qui aime plus que moi, amène sa mère plus que moi », ici, Luc prend le mot comme « haïr ». Ce n'est pas vraiment « haïr », mais laissez-moi expliquer. Luc chapitre 14, verset 25. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, c'est la même chose que Matthieu chapitre 15, chapitre 10, d'une façon différente de s'expliquer, qui est son père, c'est-à-dire qui aime moins son père, sa mère, sa femme, etc., ou même sa propre vie, n'est pas digne de moi. Bon, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas, verset 27, sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 10. Mais maintenant, regardez, voilà, regardez ce qu'il ajoute. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est le secret. Verset 28. Lequel de vous dit-il, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Prenez le temps de réfléchir à cette phrase. Tout ce que vous faites, les choses qui valent la peine d'être faites, est-ce que vous calculez la dépense? Lorsque vous commencez à construire quelque chose, vous calculez la dépense? Non pas pour commencer, non. Écoutez, nous avons tous ce dont nous avons besoin pour commencer. Je peux commencer n'importe quel projet. Commencer. Mais lorsque je calcule la dépense, ce n'est pas la dépense pour commencer. Le Christ a dit, calculer la dépense, s'il a de quoi la terminé. Eh oui, la quoi la terminer. C'est là, vous pouvez vraiment. De peur, dit-il, qu'après avoir posé les fondements, ne puisse ça achever et que tous ceux qui sont autour de lui se moquent de lui, etc. Vous et moi, mes frères et mes sœurs, nous devons toujours calculer la dépense pour voir si nous avons de quoi pour terminer ce que nous avons commencé. Voilà, en quelque sorte, ce que c'est que le baptême. Voilà le prix du baptême. Et tout ça, ce n'est pas difficile, car le Christ nous donne de la force. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force nécessaire de lutter contre le péché, comme vous pouvez lutter après avoir reçu le Saint-Esprit. Eh oui, autrement dit, laissez-moi vous donner un exemple. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, et vous commettez l'adultère. Ça ne vous fait absolument rien parce que, c'est normal, tout le monde le fait. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, vous avez un remords. Vous vous sentez coupable. Et avec l'Esprit de Dieu, vous aurez la force de lutter contre cette tentation. Et ceci est vrai dans tous les aspects des commandements de Dieu. Dieu vous donnera la force dont vous avez besoin pour lutter contre tout péché. C'est pas facile, je sais. Humainement parlant, nous nous laissons nous emporter par la convoitise. La convoitise mène au péché. La convoitise mène à la mort. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous luttons. Lutter signifie faire quelque chose. Nous luttons et nous sortons victorieux. Alors, c'est ainsi que nous devenons chrétiens. Je vous ai posé au commencement de ce sermon, j'ai dit, qu'est-ce qu'un chrétien ? Eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui croit dans la grâce et la connaissance. Un chrétien est quelqu'un qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, progresse, fait des efforts pour avancer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit que ce qu'il fait n'est pas conforme à la volonté divine, s'en détourne. Un chrétien est quelqu'un qui cesse de pécher lorsqu'il est conscient de ce qu'est le péché. C'est dommage que les gens ne font pas attention à ces simples vérités. Revenons à Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le Christ nous révèle une vérité très précieuse. Matthieu 13. Une vérité très précieuse, car regardez à nouveau autour de vous. Vous avez pas mal de gens qui sont sincères, mais la sincérité dans l'erreur ne vous permet pas d'être dans la vérité. La sincérité dans l'erreur demande un changement. Je répète, la sincérité dans l'erreur ne constitue pas la vérité. Ici, Matthieu chapitre 13, le Christ avait donné une parabole et dit, voici maintenant l'explication de cette parabole. Maintenant que vous comprenez ce que c'est que le baptême, ce que c'est que le Saint-Esprit, ce que c'est qu'être converti, vous pouvez voir ce que c'est que la signification de cette parabole que le Christ donne. Au verset 18, Luc, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 18. Écoutez, dit-il, ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, voilà, le royaume de Dieu, car le Christ reviendra, et ne la comprend pas, et beaucoup de gens aujourd'hui ne la comprennent pas, le malin, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Laissez-moi faire une petite pause ici. Depuis je ne sais combien d'années, je prêche l'Évangile à la radio. Auparavant, en Europe. Bon, dans d'autres langues, en anglais, l'Église de Dieu aujourd'hui proclame l'Évangile par la télévision de par le monde. Avec toutes ces millions de personnes qui écoutent l'Évangile, qui écoutent cette parole, les gens entendent mais ne comprennent pas. Pourquoi ? Le Christ explique. Parce que ces gens-là entendent, mais ils n'ont pas de profondeur. Le malin vient, enlève ce qui a été semé. Cet homme de Tyr est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Autrement dit, ils ne s'intéressent pas. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines. Voilà pourquoi les gens écoutent ces discours, ces sermons. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racines, il n'y a pas cette détermination de dire « bon, je vais faire ». Écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous ne voulez pas vraiment obéir à Dieu, vous vous séduisez. C'est simple. Vous ne pouvez pas jouer un jeu pareil avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Ou bien vous obéissez, ou bien vous n'obéissez pas. Il n'y a pas un petit raccommodage. Il n'y a pas des compromis par-ci, par-là. Le Christ explique. Celui qui a reçu donc le long du chemin, celui qui reçoit donc dans les endroits pierreux. Ensuite, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, et ça c'est intéressant car la plupart des gens sont ici. Les épines, c'est le monde, c'est les voies du monde. Les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques jours, ça arrive souvent, j'ai parlé avec quelqu'un qui voulait vraiment être chrétien, qui voulait vraiment faire ce que Dieu dit. Alors j'ai expliqué, et dans l'explication que j'ai donnée, j'ai montré qu'il faut qu'il obéisse au commandement de Dieu. Il dit, oh oui, j'obéis au commandement de Dieu. Je dis, il faut que vous observiez tous les commandements. Ah ben, il dit, si je les connais, je les observe. Et j'ai dit, est-ce que vous observez le sabbat du septième jour? Il dit, non. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ça, c'est pas important. Écoutez, j'ai dit, vous venez de me demander de me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? Lorsque je vous montre le sabbat, vous dites, non, c'est pas important. Ben, voilà. Donc, en cette personne-là, les soucis du monde, pour lui, la transgression du sabbat était une nécessité pour s'enrichir en faisant du travail le jour du sabbat, alors que la Bible dit, tu ne travailleras pas le jour du sabbat. Donc, il n'a pas voulu accepter la condition. C'est la façon générale de beaucoup de gens qui acceptent la Bible à leurs conditions. Bon, je prendrai dans la Bible ce qui me plaît, ce qui me paraît facile, le reste, je laisse de côté. Dieu me comprendra. Non, mes frères et mes sœurs, Dieu ne vous comprendra pas. Si, il comprendra, mais non pas à votre façon. Il vous comprendra à sa façon, et il y a une grande différence. En fin de compte, verset 23, toujours, Matthieu 13, le Christ parle de quatre catégories de gens ici. Maintenant, la quatrième catégorie, il explique. Verset 23, « Celui qui a reçu la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, les enseignements bibliques, dans la bonne terre. La bonne terre, c'est la terre qui accepte, qui reçoit, qui vraiment travaille avec. La bonne terre est celui qui entend la parole de Dieu, qui la comprend. Il faut comprendre, oui, parce qu'il faut vraiment vous mettre à genoux, demander à Dieu de vous permettre de comprendre. Il porte du fruit. Voilà maintenant le vrai chrétien. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Autrement dit, certains d'entre nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous portons beaucoup de fruits parce que nous avons beaucoup de talents. D'autres portent moins de fruits parce qu'ils ont moins de talents, mais tous portent du fruit quand même. Ne vous comparez pas aux autres. Ce que le Christ vous a donné, des talents limités, profitez-en, faites de votre mieux avec ces talents. Ce faisant, voyez-vous, vous vous qualifiez pour le royaume de Dieu. Cela vous explique en quelque sorte ce que c'est qu'un chrétien. Lorsque j'ai commencé ce sermon, je ne savais pas exactement comment j'allais me diriger. J'ai mis l'accent sur le baptême, j'ai mis l'accent sur l'attitude. Et avant de terminer encore maintenant, laissez-moi vous mettre l'accent sur le but de la vie. Car ça, c'est important. Nous sommes nés en tant qu'êtres humains et nous mourrons. Mais lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit avant de mourir, lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, lorsque nous avançons dans la croissance spirituelle, au moment de la résurrection des morts, nous serons transformés en êtres spirituels. Aujourd'hui, nous sommes des êtres mortels, nous sommes nés en tant qu'êtres immortels, mais nous sommes nés pour devenir un jour des êtres spirituels. C'est là le but de la vie. C'est là la bonté de Dieu. Je pense que l'idée m'est venue, vous savez, avec moi, quand l'idée me vient, il faut que je puisse en profiter. J'ai pensé justement à ce que nous appelons une parabole du Christ. Matthieu, oui. Luc chapitre 10. Notez cette parabole du Christ. Ça va vous montrer le but de la vie. Ça va vous montrer la bonté de Dieu. Ça va vous montrer aussi comment les êtres humains se comportent. Ici, le Christ parle d'une famille. Et indirectement, on peut dire que c'est aussi l'exemple du Christ même. Il s'agit de Luc 15, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi il dit Luc. Oui, Luc 15. Ce n'est pas l'enfant de la parole. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Luc 15, verset 11. Le Christ dit encore, « Un homme avait deux fils. » Écoutez bien. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Écoutez bien. Donc ici, vous avez deux fils. Un des fils, le cadet, demande ce qui lui revient. Il n'avait pas la bonne attitude. Il gaspillait l'argent, donc il prend l'argent, peu de jours après, le plus jeune fils, donc, après avoir tout ramassé, part pour un pays éloigné. Il dissipe son bien, vivant dans la débauche. On ne peut pas être plus bas, voyez-vous. Il a vraiment gaspillé l'argent. Il a vécu avec des prostituées. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le Christ, dans cette parabole, vous donne des résultats. Vous faites comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez tout. Lorsqu'il a tout perdu, lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine revient dans le pays et cet enfant commence à se demander qu'est-ce qu'il va faire. Il voit qu'il n'a rien à manger, il ne peut même pas manger ce que les porcs mangent et se pose une question. Verset 17. Il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ?» Ah, maintenant qu'il a tout fait, ce qui est mauvais, tout d'un coup, il se rappelle son père. Il se rappelle la vie qu'il avait chez son père. Alors, il se pose une question. Verset 18, Luc 15. « Je me lèverai, bon, une bonne décision. J'irai vers mon père, une bonne décision. Je lui dirai, mais maintenant, il faut être sérieux. « Mon père, dit-il, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Voilà le repentir dont je vous parle. Parce que vous péchez contre Dieu. Il dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Voilà la clé de son repentir. Cet enfant était sérieux. Après avoir vécu dans la débauche, tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'est pas digne de son père. Il n'est pas digne d'être appelé fils de son père. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Comprenez-vous? Il s'abaisse maintenant. Voilà le repentir. Ça, c'est le vrai repentir. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, et même au sein de l'Église, ne comprennent pas ce que c'est que le pardon. Si quelqu'un vient auprès de vous, vers vous, et qu'il a fait quelque chose contre vous, si vous dites, écoute, je m'en repens, pardonne-moi, quelle est votre attitude? Est-ce que vous revenez sur les fautes commises? Est-ce que vous répétez, ah oui, tu as fait ceci ou cela? Si c'est le cas, vous ne savez pas ce que c'est que le pardon. Regardez l'exemple ici. Le père aurait pu dire à son fils, « Ah, mais écoute, mon fils, tu as pris l'argent, tu as gaspillé de l'argent. » Non, il n'a pas dit ça, voyez-vous. Le père a pardonné tout d'un coup. Le père, même de loin, lorsqu'il voit le fils arriver, il se lève, il va ému de compassion, verset 10, verset 20, et il va vers son fils et dit, lorsqu'il voit son fils, son fils répète, j'ai dit, j'ai péché contre toi, contre le ciel, et je ne suis pas digne d'être ton fils. Quelle a été la réponse du père? C'est ça que je veux que vous compreniez. Le père n'est pas revenu sur les fautes de l'enfant. Le père ne l'a pas dit, écoute, tu as fait ceci ou cela. Le père a dit, écoutez, dit-il, apporte la plus belle robe, tu es le meilleur veau. Mon fils qui était mort, il est maintenant vivant. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est cette attitude dont nous avons besoin pour comprendre ce que c'est que le pardon, la miséricorde. Qui est-ce qui a questionné le retour de cet enfant? Son frère. Tandis que le père avait tout pardonné, lorsque le frère aîné arrive, la première chose que le frère aîné dit, mais pourquoi est-ce que mon frère est arrivé? Pourquoi est-ce que mon père le reçoit? Pourquoi, voyez-vous? Et puis ensuite, il commence à raconter, je ne sais pas. Ah oui. Il dit, ton frère, voyez-vous, lorsqu'il se met en colère, verset 27, verset 28, et il dit à son père, écoute, tu donnes tout à mon frère, tu n'as rien fait pour moi, qui était un mensonge. Il dit, verset 29, je t'ai toujours servi, jamais transgressé ta loi, qui est un mensonge, parce que nous sommes tous pécheurs. Et quand ton fils, verset 30, voyez-vous, la façon de parler, et ça, c'est pas converti. Quand ton fils, il aurait pu dire comme mon frère, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, il se rappelle toujours les fautes de son frère. Et dit-il, tu le veux gras. Voilà la différence entre la vraie miséricorde et la miséricorde humaine. L'homme, d'une façon générale, ne sait pas pardonner. Nous revenons toujours sur les fautes de quelqu'un. Dieu, quand il pardonne, c'est fini. C'est pardonné. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, tâchez de vous mettre en règle avec Dieu. Apprenez ce que c'est que le péché, ce que c'est que le pardon divin. Apprenez ce que c'est que se repentir et comment, après avoir reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, comment marcher vers la vie éternelle. Dans Actes chapitre 5, encore une autre preuve, comment recevoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, Paul dit, Pierre dit plutôt, je m'excuse, il dit, je prends juste un verset ici, verset 32, Actes 5, 32, nous sommes, nous, les apôtres, les disciples du Christ, témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Entendez-vous cette mise en garde? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, vous devez passer par le baptême, faire cette cérémonie si vous voulez. Mais après, il faut travailler avec le Saint-Esprit, obéir à Dieu, vivre de façon à toujours avancer afin d'arriver au but. En fin de compte, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire avec le Saint-Esprit de Dieu? Il doit obéir à tous les commandements de Dieu. Et comment est-ce qu'il peut croître? Il croit dans la grâce et la connaissance des enseignements qu'il apprend dans la Bible. Et en fin de compte, comment il arrivera au but? La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 24. Là encore, prenez le temps, lisez Matthieu 24, ça vaut la peine, car Dieu vous montre ici comment vraiment arriver au but. Par recevoir le Saint-Esprit n'est pas tout. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devez aller jusqu'au bout. Vous vous rappelez? Le Christ a dit, vous devez calculer la dépense pour voir si vous avez de quoi terminer. Lorsque vous commencez quelque chose, lorsque vous devenez chrétien, vous êtes sur la voie du christianisme, posez-vous la question, est-ce que j'ai de quoi terminer? Matthieu 24, c'est ce que le Christ dit, c'est ce que je vous dis en terminant. Un simple verset, un simple commandement. Le Christ dans Matthieu 24 parle de ce qui va se passer en ce moment monde. Le Christ nous montre les événements importants avant l'avènement du Christ sur cette terre, qui est bientôt, pour bientôt. Et il dit, verset 13, Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Écoutez bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le prix du salut. Le Christ nous donne la force pour arriver jusqu'au but, jusqu'au bout, je dirais, à cause du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Soyez-en reconnaissant à Dieu et travaillez avec le Christ, qu'il soit lui votre maître, votre guide, votre enseignant. Car Dieu vous aime. Il veut que vous soyez un jour avec lui, dans son royaume, en tant que ses enfants spirituels.